Ici souffrit le pauvre Antoine Doinel, puni injustement par Petite Feuille pour une pilote tombée du ciel. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil.
Alors les champions, vous allez vous connaître la vie peut-être. Allez, vous pourrez vous entraîner pendant 3 jours. Pas de récré à ce coup, le repos, 3 jours de repos, je me prends du bien. Allez, allez, allez.
Voilà, c'est très court. Alors je vais vous expliquer évidemment pourquoi cet extrait, ce court extrait en préambule. En effet, écrit dans les coins pour liaison secrète. En fait, mon idée, ça va être de penser l'écrit chez Truffaut comme quelque chose de hors la loi. C'est-à-dire l'écrit hors la loi, l'écrit clandestin, l'écrit en marge et en cachette. En effet, la lecture et l'écriture chez François Truffaut ont toujours eu à voir avec l'idée de clandestinité, hein, de marginalité, ce que partagent du reste bon nombre de ces personnages. Et c'est vrai que Truffaut, enfant et adolescent, se réfugiait dans la lecture, comme le rapporte Antoine Debecq dans sa biographie. Hein, il disait que la mère de François Truffaut ne le supportait que muet, absorbé dans un livre, hein, par un livre, etc. Et c'est vrai que, enfant et adolescent, François Truffaut aimait, adorait lire les livres dans son coin, faisant attention justement à ne pas faire de bruit pour pas déranger sa mère. Et on a une image un petit peu de cela, de ce Truffaut enfant adolescent dans ses livres, réfugié dans sa lecture, dans son coin, au début de Baiser volé, hein, avec Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud, qui lit dans son coin, précisément, à l'écart des autres Truffions, hein, dans la cellule de l'armée, le lit dans la vallée, je crois, de Balzac. Hein. Donc, Antoine Doinel, au début de Baiser volé, est un peu, disons, une projection de Truffaut enfant-adolescent qui, effectivement, aimait lire à l'écart des autres dans son coin. Donc la lecture, l'écriture, évidemment, comme effectivement, comme élément comme ça, de un peu clandestin. Il est évident que la cinéphilie pour Truffaut était aussi une sorte d'école buissonnière, hein, c'est-à-dire une pratique en marge de la société. La marge étant pour Truffaut une manière évidemment idéale de demeurer clandestin. Alors je vous ai montré justement ce très très court extrait parce que là on a là, d'une certaine manière, l'illustration de ce refuge clandestin, de cette pression de la marge tant désirée, je dirais, par Truffaut lui-même enfant et par bon nombre de ses personnages. C'est-à-dire que le jeune Antoine Doinel, joué par Jean-Pierre Léaud, vient d'être puni par son maître et il se retrouve derrière un petit tableau noir, et il en profite pour écrire des choses un peu, des choses un peu interdites sur un mur blanc. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'opposition entre le mur blanc et le tableau noir, c'est-à-dire le mur blanc comme effectivement pan dédié à la marge. C'est un mur dans un coin. Derrière, justement, le tableau noir académique, hein, le tableau noir des maîtres. Donc là, il y a quelque chose, une opposition entre le mur blanc et le tableau noir, entre le mur caché dans un coin et le tableau exposé au centre, qui d'une certaine manière symbolise très très bien le conflit, la confrontation de la marge et du centre dans les fictions de Truffaut. Hein, donc la question de la clandestinité, ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par Violaine, va être un petit peu mon fil rouge dans cette communication. Alors l'idée de cette communication, pour moi, enfin disons, ça a été d'associer le caractère clandestin de l'écrit, je dirais au sens large, il ne sera pas spécialement ou spécifiquement question de la lettre, mais plutôt de l'écrit, c'était d'associer le caractère clandestin de l'écrit à celui d'une liaison secrète, hein, de liaison adultère. Comment l'écrit clandestin vectorise-t-il une relation elle-même en marge? Comment devient-il support d'un récit en filigrane, à la dérobée, agissant dans les doublures d'une histoire centrale, exposée au grand jour? Alors c'est ce qui va un petit peu m'intéresser. Alors je préviens, ça va être de l'analyse de séquence. Donc comme l'a dit Julie dans l'introduction, donc je vais m'intéresser à 3 films. J'aurais pu m'intéresser à beaucoup plus de films que cela, puisque c'est vraiment très fréquent chez lui. Donc 3 films, La peau douce, Domicile conjugal et La femme d'à côté. C'est-à-dire 3 films inspirés de 3 rencontres, en plus, 3 rencontres réelles que Truffaut a pu faire dans son passé. 3 films, donc, pour 3 relations à fort caractère autobiographique. Donc, j'ai prévu un extrait de chaque film et je vais montrer, effectivement, de manière très, très localisée, la manière dont l'écrit circule de manière clandestine dans les films, enfin, en tout cas, dans les extraits. toujours sous la menace d'être découvert par le centre, par les tenants du centre. Alors je vais sans préambule donc commencer par la peau douce. Alors je remercie Patrice d'avoir aménagé une sorte de d'avoir un peu parlé de la peau douce à la fin de sa communication. Ça permet une transition. Alors la peau douce, c'est un film de 64. Et c'est son premier. Alors les critiques à l'époque, quand le film est sorti, estimaient que c'était son premier film de critique. C'est-à-dire, c'est un film effectivement sous l'influence hitchcockienne. Il fait vraiment de cette histoire l'histoire d'adultère justement un vrai suspense. Et je rappelle évidemment que les grands entretiens avec Hitchcock datent de 62. Et c'est vrai que ça l'a tellement marqué que il est vrai que la peau douce qui suit quasiment, disons, les entretiens avec Hitchcock en 62 porte la marque. Du suspense tel que Hitchcock avait pu le concevoir. Alors c'est un film qui est inspiré de deux faits divers, enfin surtout un fait divers, la fameuse affaire Nicole Gérard, qui le 26 juin 1963 avait tué son mari infidèle de deux coups de fusil de chasse dans un restaurant. Et il se trouve que 63, alors sans parler popote, il se trouve que 63 c'est quand même une année un peu de crise conjugale de Truffaut avec sa femme Madeleine Mordenstein qu'il a épousée en 58. Et c'est une. Alors, on peut dire en effet que Nicole, la maîtresse dans le film, évoque la longue liaison de Truffaut avec l'actrice Liliane David, qu'il avait rencontrée au moment des 400 coups, c'est-à-dire au moment justement où il était en couple avec Madeleine Morgenstein. Alors, bon, Patrice en a un tout petit peu parlé, c'est que. Je resitue quand même le film. Le personnage principal de La peau douce est Pierre Lachenet, qui est joué par Jean de Sailly. Et Pierre Lachenet est un universitaire, un conférencier, un critique littéraire, spécialiste de Balzac. Il dirige une revue qui s'appelle Rature. Et donc c'est un homme de lettres. C'est un homme de lettres, c'est un homme de l'écrit, comme il en existe beaucoup dans l'œuvre de Truffaut. Alors Pierre est marié, il est père d'une petite fille. Et il s'éprend d'une hôtesse de l'air, Nicole, jouée par Françoise d'Orléac, qu'il rencontre au tout début du film, dans l'avion qui l'emmène à Lisbonne, là où il doit se rendre pour une conférence, pour faire une conférence sur Balzac. Alors évidemment, donc on a une relation adultère, et à la lumière de cette relation adultère, il est évident que l'écrit a un statut clandestin, au même titre que cette relation. Dissimulé, l'écrit passe son temps, dans le film, à ruser avec le visible, hein, s'employant le plus possible à repousser le moment d'être découvert. Alors c'est vraiment une relation voilà, adultère, hein, très, 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 très clairement, qui va très, très mal se terminer. Alors la scène que j'ai choisie, c'est la scène suivante. C'est-à-dire qu'au cours d'une soirée, avec un couple d'amis, Michel et Odile, Pierre s'absente quelques minutes pour aller voir sa petite fille dans la chambre à côté, qui est une sorte de prétexte à un coup de fil passé à sa maîtresse, Nicole, hein, qui est une sorte de pulsion provoquée par un morceau de boîte d'allumettes sur lequel, et Patrice en a parlé tout à l'heure, sur lequel Nicole, sa maîtresse, l'hôtesse de l'air, a griffonné son numéro de téléphone. Alors ce qui m'intéresse évidemment dans cet extrait, c'est que ce petit morceau de boîte d'allumettes sur lequel Nicole a griffonné son numéro de téléphone, en fait, c'est un petit morceau secret. Un petit morceau secret et fatidique, bientôt caché dans le portefeuille de Pierre, qui annonce, pour ceux qui ont vu le film, bon, de toute façon, le film se termine tragiquement, donc je dis la fin, qui annonce quand même le ticket de développement de photos que Franca, la femme, l'épouse de Pierre, découvrira à la fin dans la poche intérieure de son manteau et va l'inciter, elle, Franca, à se munir d'une arme et aller assassiner son mari. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'extrait de ce film. Donc voilà, il a rencontré Nicole, il est déjà omnubilé par elle, il ressent déjà un manque, et voilà ce qui se passe. Donc ce sont deux scènes enchaînées, la scène de soirée donc, avec les amis, et puis la scène suivante, c'est quand Pierre se rend à son bureau de Rature, hein, la revue qu'il dirige.
Ah oui, Pierre, j'avais oublié de vous raconter l'autre jour, de vous avoir accompagné en ligne. Comme par hasard, ma voiture tombe en panne rue Saint-Denis.
Mais dis donc, qu'est-ce que tu allais faire rue Saint-Denis?
Mais oui, dites-moi, qu'est-ce que vous
alliez
faire
rue Saint-Martin? Rue Saint-Martin, rue Saint-Denis. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître, je viens de la boutique d'art japonais.
Pour acheter des estampes, je parlais.
Je ne crois pas si bien dire, justement. Oh, Pierre, il faudra que je vous demande un tuyau.
Tu veux un peu de glace? Je veux bien.
À quel hôtel étiez-vous descendu à Tokyo?
Au Takanawa Prince Hotel, c'est pas mal.
Attendez, qu'est-ce qu'on entend? C'est Sabine qui ne dort pas.
Attends, laisse, chérie Ginette.
Mais ce n'est pas votre premier séjour au Japon.
Oh non, je suis allé il y a 2 ans. À peine portait on une cigarette de la bouche qu'une femme se précipite pour vous la dire.
Mais qu'est-ce que je vois là?
Papa, je cherchais le livre de Caroline.
C'est pas bien, il est tard. Il faut dormir maintenant. Allez, couche-toi.
Mais tu sais, j'ai déjà dormi.
C'est pas assez. Là, voilà. Maintenant, tu vas dormir.
Et celle-là? Et celle-là? Et celle-là? Celle-là?
Allez, bon, ça suffit maintenant. Bon, je te ferme la porte.
Oh, un peu plus grand.
Alors, comme ça?
Encore un peu.
Pas plus que ça.
Pierre, tu exagères. Michel et Oedipe sont grands.
Alors, on ne vous revoit plus? Vous partez pour Tokyo?
Mais non, voyons, ils partent dans un mois.
Ah bon?
Et dis donc, c'est demain qu'on va voir Suzanne avec lui.
Je passe te prendre ou tu viens me chercher à la maison?
Oh, écoute, je ne sais pas. On se téléphone demain matin.
Oh, sans vous téléphoner, je vous fais confiance.
Bon
tour.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
T'es pas trop embêté?
Pas du tout, ils sont charmants.
Oui, n'est-ce pas? Ah, dis donc, j'ai oublié de te dire, Canadien a téléphoné. Il est furieux.
Ah, encore? Ça lui arrive souvent. Pourquoi?
Il m'a dit qu'il ne voulait plus écrire dans la revue parce que dans le dernier numéro, on a publié son article en tant que sa mère. Et il a ajouté, je sais que c'est idiot, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je suis susceptible parce que j'appartiens à un pays sous-développé. Alors, j'ai un complexe d'infériorité et il faut me ménager. Et j'ai eu très envie de lui dire, comme dans la blague, « Mais mon cher, vous n'avez pas un complexe d'infériorité. Vous êtes réellement inférieur.
Oh. » Alors, dans ce cas-là, on ne l'envoyait plus. Et ça aurait été injuste. Vous n'avez rien de très parti. Dominique, vous m'avez demandé mon numéro?
Oui, plusieurs fois, mais ce n'était pas libre. La lettre urgente, vous voulez qu'on la fasse maintenant?
Oui, si vous voulez. C'est pour Canaillan, 17 rue, machin chose. Mon cher Canaillan, j'ai appris votre décision de ne plus collaborer à la rue. Il s'agit certainement d'un malentendu. Alors, puis j'arrangerai ça autrement, je l'inviterai à déjeuner.
Les autres lettres?
Non plus, non.
Et les numéros à rater?
Pour ces trois-là, je n'y suis pas. Si ceux-là appellent, je les prends.
Donc, je n'appelle personne?
Non, personne.
Et le rendez-vous de 11h30?
Oui, je n'ai pas oublié. Je sors un petit moment.
Et votre rendez-vous?
Je reviens.
Vous payez ce raté, vous savez. Quand vous m'avez téléphoné, je partais à mon cours de gymnastique.
Alors, donc voilà, donc je vais analyser ce qu'on vient de voir. Donc, au moment de cet extrait, c'est-à-dire lors de cette séquence, enfin de cette soirée mondaine, on peut dire que Pierre, en effet, ne pense plus qu'à Nicole. Dès que lui apparaît en catimini le numéro écrit. Là, on voit que l'extériorité des conventions sociales entre alors en concurrence avec le secret amoureux, interdit en la circonstance. Donc là, l'objectif de Truffaut, il est assez clair, il s'agit de rendre visible le trouble amoureux au comble de la visibilité. Trahir ce trouble dans le respect des politesses, donner à percevoir l'action de la pensée à la surface à peine modifiée des réalités les plus communes. C'est l'obligation de discrétion mise à l'épreuve de la civilité et de la courtoisie. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, Pierre allume la cigarette de Michel, c'est une action de pure convention, qui, par le biais de la boîte d'allumettes, qui, c'est absolument évident, est un clin d'œil à une scène de L'Amour aux trousses, hein, la fin de L'Amour aux trousses, hein, la scène entre Cary Grant et Eva Marie Saint, la boîte d'allumettes, il me semble, en tout cas, que c'est une citation très claire de L'Amour aux trousses. Donc cette action de pure convention, qui, par le biais de la boîte d'allumettes, suscite immédiatement chez Pierre une émotion contenue, une irrésistible tentation. La boîte d'allumettes, accessoire anodin, jetable, périssable, exposé partout, à la vue de tous, dissimule ici, telle la doublure d'un vêtement, un écrit dérobé et déclenche en lui une pulsion d'excentrement. Et on voit qu'après avoir rangé l'objet confidentiel dans sa poche, la poche, autre cachette, Pierre s'extrait de la convention, prend prétexte d'aller voir sa petite-fille Sabine dans sa chambre pour se retirer davantage et téléphoner à Nicole, sa maîtresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cherchait la petite fille. C'est-à-dire que la petite fille cherchait un livre, celui de Caroline. Elle fouillait partout dans ses affaires pour trouver de quoi lire. Et on peut y voir le prolongement enfantin de la tension sentimentale du père autour de l'impériosité de l'écrit. En effet, il s'agit dans les deux cas de faire une entorse aux règles. Pour Sabine, préférer lire que de dormir. Pour Pierre, préférer obéir à l'écrit de poche, en poche, le numéro griffonné, que d'obéir aux bonnes manières sociales. D'où peut-être effectivement la complicité entre le père et la fille. On peut y voir une sorte de signification comme ça secrète. Dans le bureau, au plus loin de son retrait, après avoir composé le numéro, Pierre déchire la partie interdite de la boîte d'allumettes et la range dans un redoublement vestimentaire du secret. C'est-à-dire qu'après la poche extérieure de la veste, place désormais au portefeuille, rangé plus profondément dans la poche intérieure, exactement à l'image de Pierre, s'enfonçant dans le couloir de l'appartement pour téléphoner. Alors, il téléphone, la ligne est occupée, et à ce moment-là, Franca, appelle Pierre. Retour aux bienséances, aux amis qui s'en vont, à la banalité des conversations de couple, avec néanmoins, vous avez remarqué, quelques indices d'une séparation à venir, avec ce très très beau plan, hein, avec Franca dans la salle de bain tout au fond, et à droite, au premier plan, Pierre, hein, qui une sorte de distance comme ça. On peut dire que cette disposition des personnages dans le plan accuse une distance qui sera évidemment fatale, enfin qui s'accentuera au fil du film, et sera fatale même à la fin. Sans parler du panneau, espèce de panneau en trompe-l'œil, comme une espèce de cloison comme ça coulissante, qui sépare, c'est le cas de le dire aussi, la chambre à coucher du séjour. Alors ce qui est intéressant, c'est la scène suivante aussi, au regard de ce qu'on vient de voir. C'est que dans la scène suivante, au bureau de Rature, la revue que dirige Pierre, on assiste clairement à la concurrence de deux urgences, la privée et la professionnelle, celle du désir et celle du devoir. Une manière de cohabitation voisine de celle, fondamentale chez Truffaut, du cinéma et de la vie. Réciproquement, la vie abrite le cinéma et les dehors de l'ordinaire s'accommodent tant bien que mal des agitations de la pensée amoureuse qui précipitent la fiction. Ici, dans cette scène du bureau de Rature, Pierre est toujours dans la frustration de cette envie non satisfaite de la veille, hein, à savoir joindre Nicole. Il demande à sa secrétaire de faire le numéro, en vain, encore occupé. Je dirais comme son esprit est occupé, hein, cela se voit. Il a du mal à travailler et à se concentrer. Donc place maintenant à une autre urgence, rival et parasite, écrire la lettre au collaborateur démissionnaire Canaillan. Alors évidemment, dicter une lettre, c'est une facilité pour Pierre. Mais ce qui est très beau dans cet extrait, c'est que l'urgence amoureuse est plus forte que l'urgence professionnelle. arrêtons la rédaction de la lettre, des autres lettres, annulons tous les coups de fil, sous la pression du seul qui importe. Donc Pierre ressort le petit morceau de carton, ce petit fétiche de chiffres et de lettres, ce qui peut nous amener à faire un jeu de mots entre l'allumette et l'amulette, et disons qu'il renouvelle, lui-même l'appel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque dans cette scène le lien qui unit l'écrit et le téléphone, comme l'image et le son, le silence et la parole. On remarque surtout qu'au centre du visible, c'est-à-dire le lieu de travail, l'écrit et la voix, via le téléphone, ne peuvent être exposés à égalité dans l'image. Pierre range le numéro dans sa poche avant de le composer, mais observant sa secrétaire précisément en train d'écrire à la machine, n'a pas d'autre choix que de sortir, c'est-à-dire de se rendre à côté du bureau pour téléphoner d'une cabine. Et là, enfin, à côté, en marge, c'est-à-dire à l'endroit dévolu à leur partage, l'écrit et le téléphone sont ensemble, totalement libres de figurer dans le même plan. C'est ce qu'on voit effectivement, on a le cadran et puis le petit numéro à côté, tendu dans la cabine. Et j'ai arrêté là, parce que justement, il y a une ellipse temporelle, et on voit Pierre et Nicole, et Nicole dit « on a failli se rater, vous savez ». Et bien, c'est tout le drame du film, le ratage. La non-concordance des temps individuels, pour quelques minutes, quelques secondes. Se rater signifie, chez Truffaut, un problème de raccord. Trop tôt ou trop tard, lorsque l'un et l'autre, justement, ne sont pas dans le même plan. Alors, se situer à côté, jamais au centre, est l'une des caractéristiques d'Antoine Doinel, du personnage Antoine Doinel. Son instabilité notoire, sa foncière inadaptation à la société, sa marginalité tour à tour mélancolique et enjouée, Truffaut les relate en de nombreux récits d'escapades sentimentales. Alors, Baiser volé, qui date de 68, en est évidemment l'exemple le plus parlant, avec tous ses métiers successifs, dont celui éminemment romanesque de détective. Mais il me semble que sur la question de l'infidélité, traitée sur le mode du décalage et du côtoiement équivoque, Domicile conjugal, qui date de 1970, la quatrième aventure de Doinel, est probablement le plus intrigant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Domicile conjugal, mais bon, dans Domicile conjugal, Antoine Doinel donc, a épousé Christine Darbon, qui est jouée par Claude Jade. Il va bientôt avoir un fils, Alphonse. Mais le couple bat de l'aile, en partie à cause de la brève liaison d'Antoine avec Kyoko, une japonaise rencontrée à l'entreprise hydraulique américaine où il a été embauché et où il doit manœuvrer des maquettes de navires. Alors d'emblée, le film se place sous le signe de la promiscuité, de l'ordre conjugal et du désordre adultère par l'introduction d'un dispositif dynamique de voisinage. C'est-à-dire que dans le film, effectivement, il y a une importance très très grande accordée aux voisins de palier, aux voisins dans la cour, à tous ceux qui vivent à côté, justement, comme autant d'histoires parallèles. Ainsi, l'adultère ne sera pas envisagé sous l'angle de la morale et de la culpabilité, bien entendu, mais apparaîtra plutôt comme le résultat inévitable d'un contact entre le centre et la marge, le banal et l'exotique. De la même manière, on peut dire que le conjugal et l'extra-conjugal se conjuguent étroitement, comme l'ordinaire et l'extraordinaire, les deux n'étant pas opposés ou disjoints chez Truffaut, puisque chez Truffaut, on l'a vu quand même, tout doit communiquer, tout coulisse, mais situé juste à côté l'un de l'autre. L'ordinaire et l'extraordinaire situés à côté l'un de l'autre. Un intervalle tout simple à réduire grâce à un léger déplacement maladroit, un léger pas de côté aventureux. On pourrait dire que tromper le conjoint ou la conjointe, comme on se trompe de porte, et au même étage, pourquoi pas. Ne pas faire de l'adultère un drame dans Domicile conjugal, donc là c'est le contraire de la peau douce, mais une comédie de remariage d'ailleurs, puisque Antoine et Christine se réconcilieront à la fin sans trop y croire du reste. Et je précise d'ailleurs que sur le tournage, il était conscient de ça, Truffaut, et il demandait toujours à ses acteurs de jouer plus vite, de dire les dialogues beaucoup plus vite, il chronométrait même les prises. Son idée c'était évidemment de retrouver le rythme des comédies de Capra, de Hawks ou de McCarré. Alors Serge Danet, à propos de L'amour en fuite, qui date de 1979 et qui est la dernière aventure de Doinel, film que justement Danet avait revu à Locarno en 1991, parlait des portes et des scènes par où sortir. Il disait, donc c'est dans le moment trafic, dans l'ouvrage, la dernière publication, enfin la dernière livraison des textes de Danet, il disait ceci, « Truffaut est un cinéaste de la scène qui ne pose jamais qu'une seule question, par où on sort ?» Tout espace est filmé du point de vue de la porte, du passage, du soupirail, de la ligne de fuite. » Fin de citation. Et on peut voir effectivement dans ces propos un argument supplémentaire pour mieux comprendre le pouvoir d'infiltration des récits périphériques au cœur de la scénographie truffaldienne, sur le mode de l'alternance fortuite ou de l'anecdote s'immisçant à l'improviste. Alors, je vais vous montrer un extrait de Domicile conjugal. C'est la... Alors, Domicile conjugal, c'est ici. Voilà. C'est la scène, justement, des petits mots. Là, on est dans l'écrit, encore une fois. Je parle vraiment d'écrit. Les petits mots de Kyoko, la maîtresse d'Antoine Doinel, les petits mots de Kyoko cachés dans des tulipes, dans des tulipes rouges, adressés à Antoine, et que Christine, la légitime, la femme légitime d'Antoine, découvrira au moment de l'éclosion des fleurs. Alors à ce moment-là, donc, Antoine Doinel travaille dans cette entreprise hydraulique, et voilà ce qui se passe.
J'ai regardé d'allumer la lumière, il marchait à pas de loup, je croyais que je dormais. Je regardais heure, 3 heures. Tu demandes des explications. Vous savez tout ce qu'il a trouvé à me dire? Eh bien, quoi, il fallait bien que je bouffe.
Kyoko aime Antoine. Viens quand tu peux, mais peu bientôt. Elle dit bonsoir et elle pense à Antoine.
Le portier m'a donné ça.
Qu'est-ce que c'est?
C'est pour qui? Je ne sais pas, il m'a rien dit.
C'est certainement pour vous.
Pour moi? Non, il n'y a aucune raison que quelqu'un m'envoie des fleurs ici. Ça devrait être pour Nicole, je ne sais pas. Ah, je crois savoir qui c'est.
Non, mais des fleurs pour toi, ça va pas, t'es malade, toi, tu vas tout beau. C'est peut-être pour moi, au fond. Hein. Attendez, attendez. Ah! C'est marqué, là, sur le noir. En tout petit, c'est gravé. Voilà. Antoine Doinel. Ah, c'est pour Doinel. Sacré Doinel. Bravo. Félicitations. Bravo.
Thank you.
Elle s'appelle Kyoko. Elle t'aime.
Alors là aussi, le personnage, je précise une petite, un point biographique, je trouve que le personnage de Kyoko fait référence à la rencontre de Truffaut avec un jeune mannequin, justement, prénommé Kyoko, lors de son premier voyage à Tokyo en 63. Une anecdote que nous révèlent Antoine Debecq et Serge Toubiana dans leur biographie. Un jeune mannequin prénommé, justement, Kyoko, une jeune femme mystérieuse, fascinante, qui lui avait aussi écrit des petits mots comme très sobres et très intenses comme cela. Alors Kyoko, c'est un autre continent, dira Antoine à Christine. Kyoko, c'est l'incarnation un peu féerique de la tentation extra-conjugale, l'ailleurs improbable, soudain disponible, le summum de l'apparition féminine, déjà croisée dans Baiser volé, sous les traits de Fabienne Tabat. Mais très vite, Doinel réalise que derrière l'extraordinaire de l'apparition, c'est-à-dire une possibilité d'évasion, se cache la plus ennuyeuse des banalités. Que l'image au départ exceptionnelle de cette femme éprise d'absolu trahi, à force d'habitude et de dîner répété, une artificialité, une vacuité mortelle, dans la suite du film. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici par rapport à l'écrit? C'est que, comme dans La peau douce, l'écrit est le support de l'amour secret, et même ici sacré. Dissimulé dans les plis du réel, les pétales de tulipe remplaçant les poches intérieures de la veste de Pierre. Les petits mots de Kyoko, enroulés et glissés dans les fleurs, situent leur relation entre la poésie et le jeu, le mystère et l'aveu. Une sorte de une manière de charade et d'aphorisme que l'on trouve d'ailleurs écrit, vous savez, dans les petits gâteaux, les petits gâteaux feuilletés qu'on peut manger, effectivement, des petits gâteaux feuilletés chinois ou japonais avec des proverbes, des citations, etc. Donc ça peut faire penser à cela. L'intérêt dans cette séquence est, comme souvent chez Truffaut, de filmer littéralement le trajet de l'écrit jusqu'à destination. Trajet qui va ici du sacré au profane, puis du profane au sacré, au moment où l'écrit rate son destinataire. L'amour exclusif ainsi exprimé de Kyoko fera l'objet au bureau d'une première altération, avec le passage de main en main du bouquet, assorti de pauvres commentaires, avec tout de même quand même un sacré Doinel, involontairement fort à propos, lancé par le collègue séducteur. Effectivement, il ne pouvait pas mieux dire. Effectivement, sacré Doinel, c'est évidemment Doinel sacré. Doinel sacré par Kyoko, par l'amour de Kyoko. De main en main, le trajet de l'écrit invisible, au milieu d'une réalité qui s'emploie au contraire à tout rendre visible, où les commérages endommagent l'accès au secret, doit surmonter les obstacles du quotidien pour atteindre son but. De nouveau, l'écrit amoureux, pour demeurer intact, c'est-à-dire pour parvenir à destination, est obligé de rivaliser avec ce qui, de l'extérieur, nuit à son aboutissement. Alors, après les plaisanteries de bureau, c'est au tour de la poubelle, justement, ça rejoint ce que disait Patrice tout à l'heure, sur le déchet. C'est au tour de la poubelle de marquer par deux fois la précarité de son issue, du moins son détour par la réalité la plus dégradante, la plus violemment opposée à la noblesse du sentiment de Kyoko. Antoine, évidemment, ne veut pas que ces fleurs arrivent chez lui. Elles risqueraient de le compromettre auprès de Christine. Alors, après une première tentative qui n'a pas abouti devant l'ascenseur, il parvient à les jeter à la poubelle dans la cour. Mais Christophe, le petit garçon, corrige l'interruption du circuit de l'écrit en récupérant le bouquet, puis en suivant Antoine jusqu'à chez lui. Alors, ce Christophe est très intéressant. C'est-à-dire que, surgissant derrière lui, à côté de lui, tel un messager raccommodant la trame amoureuse, Christophe est en quelque sorte l'agent complice et concomitant d'une intimité pure, absolue. Petit voisin, il achève le parcours des termes imprimés d'une histoire voisine, parallèle, rivale. C'est lui, Christophe, serviteur à la marge du plan, qui se présente comme le dépositaire indirect d'une liaison vécue en marge du foyer conjugal. Et, comme pour parfaire l'intervention de la marge sur le couple central, Truffaut laisse subtilement hors champ la scène entre Antoine et Christine, en préférant suivre le parcours de l'enfant, porteur innocent d'une histoire off, jusqu'à la pièce à côté, c'est-à-dire la chambre d'Alphonse, c'est-à-dire son lieu d'origine et d'intervention imaginaire. Hors champ, à l'autre extrémité de l'appartement, Antoine n'a pas d'autre choix que de mentir, sous l'effet d'une histoire qui vient sous nos yeux de faire son entrée par le prisme d'une déclaration maquillée en bouquet de tulipes. Alors ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est que littéralement, physiquement, je dirais même topographiquement, l'à côté de l'infidélité a réussi à se frayer un chemin au milieu des petites habitudes. Alors, lorsque le geste poétique de Kyoko se dévoile enfin par la tombée magique des mots, des petits mots à l'ouverture des tulipes, c'est en plein repas de bébé. en pleine scène de vie quotidienne. Alors on a là un nouveau contraste très très saisissant, sous le même toit, entre la fantaisie et la banalité, la fiction amoureuse et la plate réalité domestique, entre le rouge éclatant des tulipes et la pâleur bleutée du séjour, et ce qui fait que, évidemment, la conséquence, je dirais parfaitement en accord avec l'action implicite d'une liaison à part, c'est-à-dire dans le double sens d'excentrique et d'excentré, eh bien, c'est que Antoine et Christine feront un temps chambre à part, hein, vivant chacun de son côté. Hein, donc là, effectivement, l'à côté a fait son entrée à travers le bouquet de tulipes et Christophe, et la conséquence, c'est que, bah, effectivement, l'à côté va se poursuivre, et que Antoine et Christine donc, feront chambre à part. Alors, très rapidement, parce que l'extrait de la femme d'à côté est vraiment très court, il fait à peine 2 minutes, c'est que je dirais que la transition est toute trouvée pour parler de la femme d'à côté. D'autant que le domicile conjugal présente comme ça des signes un peu prémonitoires. Par exemple, l'évocation évidemment très drôle du suicide à deux. Alors même si effectivement dans Jules et Jim, il y a un suicide à deux aussi. Le suicide à deux. Et puis surtout le fait que Antoine, dans domicile conjugal, manœuvre, hein, comme je disais, des maquettes de bateaux, exactement comme Bernard, le personnage joué par Depardieu dans le film de 81. Alors pourquoi j'ai choisi ce film-là ? Pas seulement parce que c'est un de mes films préférés de Truffaut, mais bon, ça. Mais c'est tout simplement parce que tout est dit dans le titre. La femme d'à côté. Hein ? C'est-à-dire que l'à côté se manifeste de nouveau pour déranger la norme conjugale. Hein ? La paix d'un ménage sans histoire. Alors on retrouve dans la femme d'à côté l'importance accordée aux présences voisines, à ce qui se tient dans les coins, à proximité, et qui ne demande qu'à faire irruption dans l'espace tranquille des convenances et des conventions. Alors, je ne sais pas si vous avez vu La femme d'à côté, très rapidement, ça se passe dans un petit village à quelques kilomètres de Grenoble, et Bernard, joué par Depardieu et sa famille, voient un jour s'installer un couple dans la maison en location située juste à côté de la leur. Seulement, hasard fatal, la femme qui s'installe à côté, Mathilde, est celle avec qui Bernard a vécu une passion dévorante 8 ans auparavant. Très vite, la violence des sentiments entre eux ressurgit et les conduira à une issue tragique. Une liaison ancienne, aujourd'hui renaissante, clandestine, parallèle, comme est parallèle, à sa façon, l'histoire de Madame Jouve, la gérante d'un club de tennis. L'histoire de Madame Jouve, pardon, qui s'insinue par intermittence dans celle de Mathilde et de Bernard. Madame Jouve, qui est quand même un magnifique personnage, la chère confidente, hein, la vigie et la narratrice, qui, au début du film, rapporte face caméra l'histoire des deux amants. Alors, malgré son titre évocateur, La femme d'à côté, il est à première vue curieux de choisir ce film, tant l'écrit y est, je dirais, singulièrement absent par rapport à d'autres films de Truffaut. Enfin, du moins en retrait, excepté les livres pour enfants que dessine Mathilde. Et d'ailleurs, lorsqu'au début du film, Bernard est au téléphone avec Mathilde, et qu'elle lui demande s'il a de quoi écrire son numéro, il répond « Non, je n'ai pas de crayon, je n'ai besoin de rien. » Et puis il raccroche sèchement. Ainsi énoncé, on se dit alors à ce moment-là que le crayon, l'écrit, n'auront pas une grande place. Et en effet, ils seront remarquablement remplacés dans le film par le téléphone. C'est un film justement où le téléphone a une place prépondérante, primordiale. Néanmoins, grâce à Madame Jouve, et je dirais même à son attention, l'écrit va intervenir à un moment précis, dans un mouvement comparable à la réémergence d'un temps lointain, d'une histoire ancienne, en l'occurrence. Car Madame Jouve, jouée par Véronique Silver, est elle aussi la rescapée d'une passion amoureuse vécue autrefois, évoquée en miroir de celle ressuscitée de Mathilde et de Bernard. Hein, en miroir, en parallèle, dans une sorte de hors-champ temporel qui scelle le récit central et le légendarise, d'une certaine façon. Alors là aussi, la lecture de la bio nous apprend pas mal de choses. Et je noterai que cette allusion à un passé amoureux rejoint la propre expérience de Truffaut, car on apprend dans la biographie que le script de La femme d'à côté remonte en fait à 1972, et qu'il s'inspirerait, encore une fois d'après Antoine de Bec et de Toubiana, de sa relation avec Catherine Deneuve en 1969, à l'occasion du tournage de La sirène du Mississippi. Et Truffaut avait même pensé à tourner La femme d'à côté presque dans la foulée, et pensait même avoir confié le rôle des amants à Jeanne Moreau et Charles Denner. Autrement dit, La femme d'à côté est une fiction où se superposent, comme en surimpression, trois résurgences, hein, trois grandes passions revenues à la mémoire, l'histoire de Truffaut, l'histoire de Mathilde et Bernard, l'histoire de Madame Jouve. Et c'est même pour cette dernière, par son intermédiaire, que Truffaut décide un court instant de réhabiliter l'écrit sous la forme, je dirais, archaïque d'un télégramme et selon un mode de circulation physique caractéristique de ses anciens films, comme Baiser volé, La peau douce, etc. Alors, c'est très bien parce que il se trouve que cette scène a été évoquée à la fois par Violaine et par Patrice. Donc, je vais vous montrer cette scène. C'est très, très court. C'est la scène du facteur. Ça dure à peine 2 minutes. Le facteur, un facteur apporte un télégramme adressé à Madame Jou.
Madame Jou, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Madame Jou.
J'ai trouvé.
Je cherche Madame Jou.
Et vous voyez le normal là-bas?
Oui, on est venu le recevoir.
Merci.
Excusez-moi, Madame Jou, s'il vous plaît.
Un télégramme, un sale télégramme. Mais je ferai comme si j'avais rien reçu. Allez.
Non, parce que je peux vous aider.
Non, laissez-moi. Allez.
Vous savez que vous pouvez compter sur moi.
Oui.
Voilà. Alors, je termine donc sur ce film et sur cet extrait. Alors, dans un entretien que Truffaut a accordé à Aline Desjardins, qui était une journaliste canadienne en 71, Truffaut donc déclarait basiniennement ceci. « J'aime le cinéma parce que c'est un art indirect, inavoué. Il cache autant qu'il montre. » Alors, ça a été évoqué dans les deux communications précédentes. Et on peut dire en effet que là, on en a une preuve littérale. Hein, par son déplacement en aller-retour, guidé par sa recherche de Madame Jouve, le facteur qui apporte le télégramme est un peu le dépositaire de ce goût de l'indirect, de l'inavoué, c'est-à-dire du secret niché dans le souvenir douloureux de l'histoire de Madame Jouve avec son grand amour de Nouvelle-Calédonie, souvenir dont son infirmité porte la trace, on apprendra ça, c'est une information qu'on a dans le film assez vite, due à une tentative de suicide 20 ans auparavant, le jour où Madame Jouve avait appris le mariage de ce dernier. Et on voit effectivement dans cet extrait que la remise du télégramme n'est pas directe, hein, plutôt en sinuosité laborieuse, en zigzag, ce qui confirme à mon avis le fait que ce film est peut-être le plus bunuelien de Truffaut. Il y a énormément de références au cinéma de Bunuel, et notamment à l'âge d'or. Bon, passons. Donc, en sinuosité laborieuse, en zigzag, puisque Bunuel est un grand cinéaste du zigzag, à travers une série d'écarts et de retards, conformément au statut filmique de l'écrit, qui a toujours chez Truffaut besoin d'un trajet, besoin de temps pour parvenir à destination, pour remonter à la surface, comme une manière de figurer à la lettre un destin de nouveau en marche. Ce qui est très beau ici dans cet extrait, c'est que ne pas trouver tout de suite Madame Jouve oblige le facteur à marcher un peu plus et permet à Truffaut de filmer dans la durée l'événement de la marche. Voilà. Le fait que justement la marche dure fait d'elle un événement, d'une certaine façon. Ce qui contraste avec le téléphone, qui est un moyen de communication plus direct, bien que dans le film, il arrive que certains coups de fil sonnent dans le vide. Bon. Alors, par un étrange phénomène d'inversion et de substitution, l'arrivée inopinée de l'écrit évacue provisoirement l'histoire de Mathilde, Fanny Ardant, qu'on ne voit pas dans l'extrait, et de Bernard, donc Depardieu, pour faire de celle de Madame Jouve le centre de l'attention, tout en lui conservant sa part de mystère. En effet, lorsque la première fois le facteur demande Madame Jouve, un raccord rapide nous montre Bernard se retournant. Comme si, à la fois confusément et directement, cet appel lui était adressé. Comme si l'histoire de Madame Jouve le concernait et recoupait la sienne, entre les lignes, entre les plans, tel un écho ou un commentaire eux aussi secret. Donc spontanément, Bernard propose d'aider Madame Jouve par solidarité non seulement affective, mais aussi télépathique. Enfin, si vous voyez la femme d'à côté, c'est un très grand film télépathique. Enfin, je veux dire, c'est... À tel point qu'on peut se dire que l'à côté, figuré par Madame Jouve, et le centre, figuré par Bernard, à l'échelle du récit entier, se rapprochent diégétiquement par une même force magnétique d'observation. Et dans le film, à plusieurs reprises, une histoire, par les yeux de ses protagonistes, est en situation d'en observer une autre, à distance et en silence. Madame Jouve, observant Bernard et Mathilde à tour de rôle, Bernard et Mathilde observant à tour de rôle Madame Jouve. Comme on voit ici, Bernard observe à distance Madame Jouve. Ainsi, chaque strate d'expérience intime, dans le temps et l'espace de la fiction, en rejoint-elle d'autres, par effet de rime et de correspondance, y compris au sens donc de l'échange épistolaire, pour ne plus composer qu'un seul et même destin de souffrance amoureuse. Alors en conclusion, je dirais que chez Truffaut, l'écrit est central parce que périphérique. In, à force d'être off. Ici, à force d'être ailleurs et de venir d'ailleurs. Présent à l'image, tout en rôdant autour d'elle. Son statut et sa provenance demeurent bel et bien la chose la plus prépondérante pour faire de la vie un récit fatidique, une trajectoire incertaine, une joie tout autant qu'un regret. Je vous remercie.